Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission que je suis très heureux de vous présenter. Au travers de ces émissions, nous avons envie de vous faire découvrir des artistes photographes que nous trouvons passionnants, de donner la parole à des chroniqueurs et chroniqueuses que l'on aime et que l'on admire, avec comme seule ambition de vous faire passer en notre compagnie un agréable moment, vous permettre de développer votre regard, votre culture de l'image, et vous amener au final, en tout cas on l'espère, à voir différemment. Et puis vous le savez, cette émission est en direct, alors prenez le temps de nous saluer sur le chat, de nous dire si le son est bon, si l'image est bonne également, bref, si vous nous recevez bien. Et puis, dites-nous également si vous nous suivez de Anvers ou d'Hambourg, de Byzance ou de Pigalle, j'aime bien savoir d'où vous nous regardez. Notre approche, je l'ai souligné, est une approche singulière à l'opposé des chaînes YouTube qui proposent des tests matériels ou des tutos purement techniques. Alors, si ce parti pris vous plaît, vous séduit, abonnez-vous à notre chaîne. Votre soutien est important pour que l'on puisse tout simplement poursuivre ces émissions. En tout cas, vous êtes nombreux à nous suivre aujourd'hui, ça fait plaisir. Bonjour Marc, bonjour Christine, bonjour Arnaud, bonjour Véronica, vous êtes nombreux. Sylvain, mon acolyte et ami de Studio Jimny, est en coulisses, vous pouvez le saluer, il est là et bien là. Il me dit que de son côté, je regarde, tout est OK au niveau de la régie, la réception à vous lire semble bonne. Parfait, on est sur des bons rails. Dans cette émission, nous allons accueillir, et c'est un grand plaisir, le photographe Pierre Gélifort. Nous allons explorer avec lui les pages de son dernier ouvrage, Haunted Paris, et découvrir comment il construit, au travers des pages de son livre, une narration purement photographique. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir les chroniqueurs et chroniqueuses qui m'accompagneront dans cette émission et qui vont vous présenter, en deux mots, le sujet de leur chronique. Alors accueillez-les chaleureusement. Je suis quant à moi très heureux et fier de les avoir à mes côtés. Salut à tous.
Bonsoir.
Hello.
Voilà. Oh, c'est sage en début d'émission. Valérie, bienvenue. On va commencer encore une fois. La première danse est pour toi, est avec toi. Comment vas-tu?
Eh bien, fort bien en votre compagnie.
Super. Donc Valérie, dans tes chroniques, tu t'intéresses à des sujets de société liés à la photo. Et dans la première émission, tu nous as parlé de ces intelligences que l'on dit artificielles et qui bouleversent aussi le monde de la photo. De quoi est-ce que tu vas nous parler dans cette nouvelle émission?
Eh bien, d'un sujet assez tabou, parce que nous allons parler d'argent.
Ok. Donc une chronique où l'on parlera de millions, mais pas que. On te retrouve tout de suite après la présentation. Gildas, bienvenue.
Allô, bonsoir.
Bienvenue, mets-toi à l'aise, tu es ici chez toi. Marche. Je suis très très heureux de t'accueillir pour notre première chronique ensemble. On se connaît depuis quelque temps, ouais. Puisque nous avons réalisé une émission pour parler de ta pratique artistique de la photo de rue. Tu es, allez, je vais pas dire toutes les casquettes que tu as, mais tu es auteur, photographe, formateur. Tu es surtout un artiste complet avec une immense et passionnante culture de l'image. Et je considère vraiment comme une vraie chance de pouvoir faire entendre ta voix dans cette émission. Alors, dans cette première chronique, Gildas, de quoi vas-tu nous parler?
Alors, on parlera d'inspiration et de résonance à travers les arts, évidemment, en photographie.
Parfait. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour une errance photographique en ta compagnie. Et avec plaisir. Salut Frédéric.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Alors, on termine en beauté et avec toi ce tour de table. Dans tes chroniques, tu présentes et mets en perspective des photographes connus ou qui mériteraient peut-être de l'être davantage en appuyant un aspect spécifique de leur pratique. Dans ta première chronique, tu nous as fait le plaisir de nous parler de nature morte. Quel va être aujourd'hui le sujet de ta chronique ?
Ce soir, je vais vous parler de portraits.
Très bien. Eh ben, écoute, on se retrouve tout à l'heure. Je suis très heureux, Gildas, Frédéric, Valérie, de faire cette émission en votre compagnie. Et c'est parti. On va se lancer avec toi, Valérie, qui va apparaître à l'écran, pour une chronique des dollars plein les yeux dans laquelle tu vas nous parler d'un sujet épineux, le prix d'une image. Et dites-nous, d'ailleurs, sur le chat, ce qui pour vous fait le prix d'une image. Et moi, je vous invite à découvrir le point de vue de Valérie. Vous verrez, ça vaut le détour. Alors, ouvrez grand vos esgourdes. C'est tout.
Alors, c'est à moi. Bon, alors, je voudrais m'adresser à vous, jeune photographe qui essayait de vendre vos images sur les banques d'images et qui, si tout va bien, récoltait 44 centimes à la fin du mois. Je voudrais m'adresser à vous, photographe aguerri, qui facturait 750 euros la journée de prise de vue et ne parvenait pas à dégager un SMIC. Je voudrais m'adresser à vous, ami artiste, artiste sur le marché de l'ego, à qui les galeries prennent 50% du prix de vente brut et que le labo et l'encadreur se partagent ce qui vous reste. Et je voudrais m'adresser à vous tous, à qui on explique la chance que c'est de pouvoir faire ce que l'on aime, gratuitement évidemment, et de bénéficier d'une visibilité inespérée. Alors à vous tous, je vous sens, et je suis moi-même souvent extrêmement étonnée, envieuse, et parfois un peu abattue quand je vois qu'une photo se vend 12 millions d'euros.
Eh bien, quelle entrée en matière. Alors, te connaissant, je me dis que tu es parti enquêter. Et est-ce que tu as dégoté quelques indices?
Ben, c'est très, très, très compliqué. Alors, un indice important, le plus souvent, les photographes très bien cotés sont morts. Voilà, mais pas que. Souvent aussi, ils ont du talent. Mais pas que. Voilà, j'aimerais donc essayer de comprendre avec vous ce qui fait le prix d'une photo. Alors, je ne vais pas vous parler du tarif d'une image, hein, puisque là, je crois que tout le monde s'y casse les dents et même la Fédération française de photographie a retiré sa grille tarifaire. Enfin, en tout cas, elle n'est plus aisément accessible.
Ouais. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce qui fait le prix d'une image? Est-ce que c'est la notoriété du photographe, la spéculation, peut-être même son coût de réalisation?
Oui, 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 tout à fait. Mais aussi la beauté, l'information, l'histoire, le buzz, un peu de tout ça. Mais donc, le parti pris que j'ai pris, c'est d'aller chercher les photos les plus chères du monde et d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, cette œuvre, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Il s'agit du violon d'Ingres de Man Ray. Elle a été acquise donc pour 12,4 millions. Alors, il s'agit de Kiki de Montparnasse, qui est la muse et la compagne de Man Ray. Man Ray qui est mort. La posture adoptée par la jeune femme force l'analogie avec la forme de l'instrument, le violon. Et le jeu de mots « violon d'Ingres » fait référence à la volonté d'Ingres, le célèbre peintre, d'être reconnu comme violoniste. Voilà, parce que le violon était son loisir préféré. Donc, Man Ray affiche ainsi que son passe-temps serait plutôt les femmes.
Cette photo, je mets mon grain de sel, a d'ailleurs été acquise à l'époque par le poète et écrivain André Breton.
Oui, tout à fait, et elle est devenue un des emblèmes du surréalisme. Donc, cette photo coche pas mal de cases dans celle qu'on évoquait au début. La beauté du sujet, Kiki de Montparnasse était une très, très belle femme. Un jalon historique de l'histoire de l'art, le surréalisme. Un illustre admirateur, André Breton, son premier propriétaire. Un créateur décédé et une connivence patriarcale. Parce que, bon, pour 12 millions d'euros, je ne vais pas faire ma Sandrine Rousseau, et j'ai parfaitement appris à bien distinguer l'artiste du salopard, mais bon, pour une femme à qui on retire les bras, qu'on transforme en instrument sur lequel on joue, on va dire que c'est un peu daté. Hein, et probablement, cette image ne passerait probablement pas la barre du concours régional de la Fédération, hein, parce que maintenant, il y a des femmes dans les jurys.
Ouais. Et on va voir des photos de femmes également dans cette émission. En tout cas, la deuxième image que tu nous présentes est, elle, un peu moins connue.
Oui, alors c'est une image qui s'appelle Le Rhin, enfin Le Rhin 2 de Gursky. Elle a été acquise pour près de 4,5 millions. Alors là, au moins, vous en avez pour votre argent parce qu'elle mesure 1,90 m sur 3,60 m. Alors, comme indiqué dans le titre, elle représente le Rhin. Alors, juste pour quelques esprits chagrins de mes connaissances, tous les détails qui ont été jugés superflus par Gursky, comme les promeneurs, un bâtiment d'usine, ont été éliminés numériquement par l'auteur, hein, photoshopés. Quoi. Donc, voilà. Donc, ami photoshopper, pour 4,3 millions, enfin, on peut vendre une photo 4,3 millions photoshopée. Alors, Gursky explique d'ailleurs que cette vue du Rhin ne peut pas être obtenue in situ, c'est-à-dire si vous vous promenez au bord du Rhin, vous n'avez pas cette photo, et qu'il a besoin d'une construction fictive pour avoir la vision de la rivière qu'il souhaite donner. Et cette photographie, on pense que aussi son succès tient au fait qu'elle ressemble à une peinture de Rothko. Donc on est en limite, on est très figuratif, mais en limite de l'abstraction.
Voilà, peinture de Rothko qu'on vous montre à l'antenne en ce moment. La prochaine photographe donc, est une femme dans le top 3. C'est une œuvre de Cindy Sherman qui a été acquise à 2 700 000 dollars.
Oui. Alors, vous voyez les filles, on peut le faire aussi. Hein, donc, une femme dans le top 3. Alors, si je peux être un petit peu mitigée sur les précédentes, je suis absolument enthousiaste sur cette photo. Donc, pour ceux qui connaissent Cindy Sherman, c'est Cindy Sherman qui est représentée, puisque Cindy Sherman ne photographie qu'elle. Hein. Toutes les photos de Cindy Sherman représentent Cindy Sherman. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans cette photo, c'est le double effet qui se coule. Donc, premier effet, l'image s'imprime immédiatement dans notre mémoire par l'émotion qu'elle produit. C'est le spectacle de la mort. Je ne sais pas pourquoi, mais on identifie immédiatement cette photo, peut-être la blessure au cou, comme une photo de mort. Alors, deuxième effet qui se coule, elle met notre cerveau en déséquilibre, en interrogation, parce que Cindy Sherman capture notre regard. On ne peut pas détacher notre regard de ce visage, mais elle nous refuse son regard. Elle regarde ailleurs. Donc, c'est une image qui est complètement obsédante. Et elle est obsédante aussi parce que elle n'est qu'ambiguïté. Alors d'abord parce que la personne représentée est à la fois sujet et objet. On ne sait même pas si c'est une poupée ou un être vivant. On ne sait pas si elle est morte ou vivante, parce que le spectacle qu'on voit est mort, mais on sait que Cindy Sherman est vivante. Donc qui prend la photo, enfin voilà, donc on hésite en permanence. Cette photo est aussi ambiguë parce que on ne sait pas ce qui est vrai du faux. Et comme ça, cette image joue avec nous. Elle nous rappelle toute l'ambiguïté inhérente à une photographie. Cela semble vrai, puisque c'est de la photo, mais c'est une mise en scène, c'est un choix de représentation. On le sait d'autant plus que c'est la photographe. On peut se poser aussi la question de savoir si cette femme est jeune ou vieille. Le visage semble plutôt jeune, mais les cheveux sont blancs. Est-ce qu'il fait beau, la lumière semble supposer, ou est-ce qu'il pleut parce que le décor et le vêtement est complètement humide? Est-ce que c'est une photo émotionnelle, comme j'essaye de vous le montrer, ou est-ce que c'est une photo intelligente, ce qu'elle est par ailleurs? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de répondre les deux.
Effectivement. La prochaine image que tu vas nous montrer est quasiment un morceau d'histoire. Je suis sûr, sur le chat, que vous pouvez deviner quel est le personnage représenté pour l'avoir vu peut-être dans vos livres d'histoire au collège ou peut-être même dans un Lucky Luke, vous nous direz, puisque là, il est question de Far West.
Voilà. Alors, ça, c'est 2,4 millions quand même. Donc, on ne va pas se mentir, la photo est nulle. Elle est sans intérêt, mais c'est Billy the Kid et c'est la seule photo de Billy the Kid et donc ça fait 2,4 millions. Alors, dans le même genre, en plus récent, on a celle-ci. Alors celle-ci, accrochez-vous bien, c'est 15 millions de dollars. Voilà. Alors, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus, hein, alors là, je reprends mes notes, hein, c'est Vivienne Marcheline et Knox Léon Joly Pitt. Hein, enfin bon, les enfants de Brad Pitt, quoi. Hein. Alors, vous allez me dire que vous auriez fait exactement la même photo avec votre téléphone, on est bien d'accord. Mais voilà, vous n'étiez pas à la maternité. Voilà. Donc, mon conseil pour vendre cher, soignez vos relations, votre carnet d'adresses, et ça tombera peut-être un jour. Hein. À ce prix-là, il suffit que d'une photo. Hein. 15 millions, on peut prendre sa retraite. Donc, si vous avez donc être mort, c'est déjà bien. Et deuxième grande leçon, avoir des amis people ou être soi-même people.
Ouais. Parce qu'effectivement, il y a les people qu'on photographie, ça fait la transition. Et puis, il y a ceux qui photographient parfois même avec du talent.
Voilà. Alors, ça m'énerve parfois un peu. Des gens comme Audrey Tautou, Nikos Aliagas, Étienne Dao, Vincent Pérez, ils font de la photo et ils exposent et ils vendent plutôt bien. Et donc, on peut se demander si les prix de leurs images dépendent plus de la qualité des images ou de la notoriété de celui qui les prend, bien évidemment. Donc, quand vous voyez l'affiche de l'exposition de Vincent Pérez, bon, vous voyez qu'on joue quand même sur une ambiguïté.
Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, on peut s'interroger sur le choix de l'image sur l'affiche qui met en avant le photographe connu, quand bien même ce n'est pas une exposition qui est consacrée à l'autoportrait. On va changer de perspective. Le prix d'une image, ce n'est pas uniquement le prix qu'on la paie, qu'on paie pour l'acquérir, c'est parfois aussi ce qu'elle coûte.
Oui, absolument. Alors là, vous avez un photographe que j'adore qui s'appelle Grégory Crutson. Alors, avant de vous dire le prix de cette photo, je vais vous dire, et c'est ça qui est extraordinaire chez lui, ce qu'elle coûte. Et en fait, une photo comme celle-là peut lui coûter jusqu'à $1 million. Alors, peut-être pas celle-là précisément, mais et la spécificité de Grégory Crutson, c'est que il veut mettre en image le plus précisément possible ce qu'il a en tête, quel que soit le coût. Donc, il reconstruit absolument tout, les décors, les lumières, les costumes, évidemment les figurants, et il va dépenser pour une image ce qui, habituellement, n'est rentabilisé que pour un film. Voilà, le film, il est vu par des millions de personnes, et ces images, elles coûtent souvent le prix d'un film. Donc, la nature, la précision de son obsession, la constance de son univers mental, la puissance d'évocation, je ne sais pas, moi cette photo, elle me parle immédiatement, force l'admiration et le respect. Et moi, je ne me pose pas la question de combien ça coûte, mais ça coûte extrêmement cher. Et donc, il vend 100 000 euros. Voilà. Mmh. Cette image vaut à peu près 100 000 euros.
Et il y a celles et ceux aussi qu'il ne faut pas oublier et qui, eux, vont payer le prix fort pour ramener des images cette fois.
Oui, absolument. Il y a ceux qui en meurent, hein, qui meurent de leur passion. Alors, même si ce n'est pas mon univers, j'ai une admiration absolument sans borne pour ceux qui risquent leur vie. Je voudrais évoquer, parce qu'on ne les présente plus, deux photographes de guerre qui ont donné leur vie, qui sont mortes, pour des images. Donc la première, dont on voit cette image absolument somptueuse, s'appelle Anja Dind, alors je ne sais pas très bien comment on dit, Nindringhaus.
Comme ça se prononce.
Oui,
ça se prononce comme ça s'écrit.
Voilà, elle est allemande, elle a étudié la philosophie et le journalisme. En 90, elle est engagée par l'European Press Photo Agency. Elle se rend en Yougoslavie, en Irak, au Proche-Orient, en Libye, et elle est tuée par un policier afghan en 2014. Dans cette photo, regardez l'intensité des regards sur cette image, le visage de l'adolescent qui est mangé par la crosse du soldat, la peur et la défiance qui sont partout, surtout, et c'est ça qui me fascine, dans le regard qui est porté sur la photographe par la femme au fichu blanc et à la robe bordeaux. Donc cette photo vaut environ 40 000 euros, mais la plupart des photos de guerre sont achetées 100 euros le quart de page par les journaux. Voilà, donc voilà pourquoi on meurt. Et le livre Photographe de guerre, d'où j'ai tiré cette image, est lui à 19,90 et je vous le conseille vivement si vous n'avez pas encore vu l'exposition. Donc l'autre image et l'autre photographe dont je voulais vous parler, c'est Gerda Taro, une autre femme, une autre photographe de guerre, une autre Allemande, née en 1910. Elle va travailler avec Robert Capa, et évidemment Capa est plus connu qu'elle. Et elle part couvrir la guerre civile espagnole en 1936 avec Capa et Seymour pour la presse communiste française. Et elle est blessée à mort à Brunete en juillet 1937. Alors, c'est probablement la première femme photographe de guerre qui a été tuée sur le front. Et on se demande d'ailleurs si la célèbre photo du républicain de Capa, hein, que, photo totalement iconique, qui vaut d'ailleurs 80 000 euros, cette photo est peut-être d'elle, parce que hier comme aujourd'hui, on vend plus cher sous un nom masculin, elle vendait donc sous son nom à lui, ses photos. C'est pour ça qu'elle a été si peu connue, parce que c'était plus facile de vendre sous le nom de Capa. Donc voilà, Zara disait d'elle que elle était une femme complètement passionnée et que sa profession c'était d'abord sa passion.
Ouais. Donc passion, le mot est lâché, passion qu'on peut pour faire une image, passion que suscite l'image. Je crois qu'on aimerait tous surtout penser que c'est la beauté seule d'une image qui fait son prix.
Oui, il faut alors à ce moment-là savoir quel est le prix de la beauté.
Qu'est-ce que la beauté
Qu'est-ce que la beauté Et je me suis promenée à Paris Photo pour essayer de, non pas de répondre à cette question, mais ce qui m'a frappée, c'est que le beau est très divers. Et ça, c'est une très très bonne chose parce que ce qui est beau pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et du coup, il n'y a pas une hiérarchie des prix comme il y aurait une hiérarchie de la beauté. Donc j'ai fait un petit peu mon marché. Cette photo qui est par exemple complètement iconique, hein, que tout le monde connaît de Dorothée Lange, elle ne valait à Paris Photo que 7 500 $. Alors là, je me suis dit que c'était pas cher pour une photo absolument splendide, iconique, historique, très probablement c'est une épreuve récente, non numérotée. Alors à ce moment-là, ça devient extrêmement cher pour un poster.
Ouais. En tout cas, c'est une photo effectivement qui est hyper connue. Dorothée Lange avait été mandatée par le gouvernement américain pour documenter la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30, et cette image qu'on trouve dans les livres, hein, représente une mère de famille qui est une ouvrière agricole et qui fuit la pauvreté et qui est jetée comme ça sur les routes. Est-ce que tu as vu d'autres choses à Paris Photo ?
Oui, franchement, c'était une très belle édition. Je trouve qu'à chaque fois, j'ai l'impression que le niveau progresse. Cette fois-ci, comme je savais que j'allais vous parler, à chaque fois que je voyais quelque chose qui me plaisait, je demandais le prix. Alors, du coup, je vous ai ramené ma liste au Père Noël. Alors, la première image de ce que j'accrocherais bien chez moi, c'est celle-ci. Donc, c'est une photo de Sarah Moon. Alors, Sarah Moon, c'est 30 000 euros. Voilà. Alors, évidemment, c'est une somme, hein, on est d'accord. Mais cette image est déjà dans les musées. Hein, si vous l'avez vue il y a 2 ans au Musée d'Art Moderne à Paris. Elle était exposée parmi d'autres. Celle-ci, c'est Titarenko. Alors, c'est vraiment un artiste que j'adore absolument, même s'il est russe, il ne faut pas le dire en ce moment, mais bon, voilà. Ça, c'est 8 700 euros. C'est la couverture de son fabuleux bouquin « The City is a Novel ». Là, il fait un travail argentique et un floutage à l'acide et au coton-tige qui rend chacune de ses épreuves complètement unique. Et puis, le dernier, presque une affaire, là, c'est Michael Ackermann, c'est le petit cheval, il l'appelait petit cheval de Varanasi, c'est 3100 euros. Voilà, donc là, Père Noël, c'est presque une affaire.
Bon, en conclusion, il reste beaucoup d'artistes vivants quand même.
Oui. Heureusement, et je ne saurais vous encourager parce que la plupart des artistes ne demandent qu'à vivre de leur art et à rester vivant, hein, et pas aller se faire tuer trop vite. Donc, si vous aimez les artistes, achetez-les vivants, c'est beaucoup moins cher.
Écoute, je suis d'autant plus heureux de cette conclusion que j'ai une de tes images dans mon salon. Donc, merci beaucoup, Valérie. dans ta chronique, pour ta chronique. On se retrouve à la fin de l'émission. Si vous qui nous suivez sur le chat êtes allé aussi à Paris Photo et si vous avez découvert des artistes photographes qui vous ont marqué, bah, partagez avec nous et notez leur nom sur le chat. On ira voir avec plaisir. Et je vous demande maintenant de réserver un très bel accueil à Gildas Le Petit Castel. Salut Gildas.
Allô.
Pour ta première chronique, Gildas, tu nous embarques pour une errance photographique et poétique à la recherche de l'inspiration. Alors moi, je me cale confortablement sur le siège du passager, ravi de la balade à venir. Et puis, je te laisse tout simplement les clés du volant.
Un grand merci. Bon, je vais essayer de la faire correctement sans trop tousser. Pour faire un hommage à Quentin Dupieux, même si je ne fume pas. Allez, c'est parti. Donc, je mets mes notes et mes lunettes, et puis on démarre. Le plus souvent, le photographe se promène pour saisir des images. Lorsqu'il est satisfait, il les partage et les fait voyager, si ce n'est en expo ou en édition, au moins sur les réseaux. Et face à cette présence infinie d'images qui gravitent sur tant et tant d'écrans, que l'on scrolle en permanence sans même en avoir conscience, dans cette habitude qui nous échappe, certaines images encore nous happent. On se plonge et se replonge avec plaisir dans leur cadre pour écouter leurs histoires. Alors au final, on peut se demander si ce ne sont pas les images qui nous baladent. C'est une évidence, le regard se nourrit, se cultive. Je cite souvent Matisse qui disait « Je suis fait de tout ce que j'ai vu ». Le tout indiquant que c'est la diversité des inspirations, la combinaison des sources qui va forger notre regard et contribuer à affirmer notre personnalité. On peut donc être inspiré par tout, des photographies évidemment, c'est un peu notre sujet, mais également la peinture, le dessin, la musique, le cinéma. Et je l'avoue, cet écran noir de mes nuits blanches reste pour moi une inépuisable source d'inspiration. Alors c'est parti, première action. Lorsque je suis monté à bord du taxi de Trévis et recontroversé le taxi driver, j'ai vu défiler la ville façon road movie nocturne, mais je suis rapidement sorti de la contemplation pour plonger dans une déambulation mentale. Car si dans le cadre 16/9, les bokehs colorés vont et viennent, presque mélodiquement, leur course est entrecoupée par un rétroviseur. Ce rétro est un nouveau cadre dans le cadre qui nous impose le regard de Trévis. Ainsi, en posant notre regard sur son regard, et quel regard, un petit peu un air de Inan, je trouve, nous entrons peu à peu dans ses pensées, beaucoup plus ténébreuses. Oui, tout est question de point de vue. Londres, septembre 2017, dans un hôtel, la nuit tombée. Rien qu'à le dire, on se croirait dans un film. Hein. Flore m'accompagne, ni elle ni moi ne savons qu'elle deviendra par la suite ma compagne. Mais la question n'est pas là, même si, comme le dit Pierre Movina, une photographie est un arrêt du corps d'une fraction de seconde. Allez, je vous refais le décor. On est bien, on écoute de la musique, on boit du vin et en papotant, j'observe son reflet sur une grande vitre devenue miroir. Elle se regarde à son tour et joue avec ses mains, réduisant par instant sa présence à son seul regard. Dans ce regard flottant, je repense à Taxi Driver. Je saisis immédiatement mon appareil, fais la mise au point sur le reflet et déclenche pour tenter de retenir ses yeux traversant la nuit. Autour de ce regard multiplié par le double vitrage de la fenêtre, gravitent des bokehs qui font penser à des phares. Sommes-nous dans un véhicule roulant de nuit ? C'est ainsi qu'est né le titre, le rétro malgré lui. Une image qui sans nul doute nous balade. Et puis il y a ces images qui s'invitent depuis la petite lucarne. Lee Friedlander, un des rares photographes ayant un nom de 4x4, s'est amusé à en réaliser toute une série dans laquelle les sujets sont présents comme par intrusion. Parfois même, il joue au passe-muraille, car dans cette photo des années 60, un motard semble traverser le mur d'une chambre de motel. Sa posture et l'allure qu'elle suggère percent l'écran, et ce 6 années avant le grand succès de Easy Rider. On entend du rock, on imagine le ronronnement des moteurs, car au-delà de la vue, une bonne image joue et touche tous nos sens. Et comment ne pas apprécier l'étrangeté de cette photographie, nous présentant un motard roulant sur une table basse. On est ici en pleine magie de l'acte photographique, médium qui permet, avec réalisme, de sortir du temps et des espaces. On dit qu'une photo parle plus de l'action que du temps. On dit aussi que le noir et blanc le suspend. Or, cette image en couleur de Trent Park nous prouve le contraire. Le sujet y est invisible, invisible mais palpable, quelque part dans son espace qui confronte deux sources lumineuses, celle émanant du rideau et celle provenant du scintillement de la neige sur l'écran. La composition se fait à travers la superposition de trois rectangles, écran, fenêtre, cadre, dans lesquels notre regard déambule, interrogatif, à la recherche d'une réponse. Mais la seule chose que ces signes amènent, c'est une sensation de suspension, une attente. Info calme, il y a ici comme quelque chose qui se prépare ou qui se trame dans les lignes de l'image. Peut-être y attendions-nous une implosion évidente engendrée par tant et tant d'images accumulées. Une expiration intense, un cri. Dans ces captures de la scène finale du film Zabriskie Point, désolé pour le spoiler, on est transporté devant une grande maison construite au cœur de la vallée de la mort. Et à travers cette longue séquence où s'enchaînent les explosions, le spectateur que nous sommes se doit de constater que l'éclatement symbolique d'un écran de télévision rend plus que jamais libres les images. Nous rappeler qu'elles sont là, partout, tout le temps, mais qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton comme le faisait croire Kodak, il faut avant tout apprendre à les ressentir, à les percevoir, et ce, dans tout ce qui nous entoure. Qu'il faut accepter de prendre le temps de s'imprégner des choses pour pouvoir un jour peut-être parvenir à en partager notre vision. Non, on ne prend pas une image, c'est elle qui nous prend et nous emmène en balade.
Eh bien, merci beaucoup, Gildas.
Merci à vous.
Pour la balade et pour le regard. C'est rare, je trouve, que l'on parle si joliment d'inspiration, de cinéma, de photographique. C'est une chronique à laisser infuser, à réécouter. On se laisse bercer. Elle plante des graines, moi, je suis sûr, dont naîtront peut-être de belles inspirations et pourquoi pas de grandes images. Il est temps, maintenant, d'accueillir notre grand invité et de découvrir un regard singulier sur la photo et sur Paris. Alors, un livre sur Paris, vous allez me dire, encore. Oui, mais un Paris loin des strass et des paillettes, un Paris hanté, envoûtant, ténébreux. Le Paris des bas-fonds, du fantôme de l'opéra ou de Belphégor. C'est un Paris humain et monstrueux, déformé et pourtant bien réel, que nous invite à découvrir Pierre Gélifort dans un ouvrage intitulé « Haunted Paris ». Alors, Pierre Gélifort est auteur, photographe, créateur de livres, et dans cette émission, nous partons avec lui à la découverte de la face obscure de la Ville Lumière, et vous découvrirez en marge de ce récit comment opter pour un style, agencer les séquences et construire une narration photographique. Salut Pierre.
Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Ilan, bonsoir tous les chroniqueurs qui sont aussi là, et
bienvenue.
Je suis très heureux d'être avec vous.
Oui, bah écoute, plaisir partagé, d'autant que j'aimerais commencer par raconter notre première rencontre, ou presque, c'était il y a 8 ans avec Sylvain. On venait de mettre en ligne notre site Studio Gimini, on oui. attendait un peu fébrile le premier abonnement, et c'est ainsi qu'est apparu ton nom et qu'on t'a découvert, donc à nos yeux, tu as une place tout à fait particulière. Et puis on t'a suivi du coup, de loin en loin, pour voir ton évolution de photographe et quelle évolution, que chemin parcouru en 8 ans. Il y a des livres, des expositions, des lectures de portfolio aussi que tu animes pour des festivals. Et aujourd'hui, cet ouvrage, Haunted Paris. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée de ce livre ?
Bien sûr. Alors, en fait, si tu connais un petit peu mon travail, tu as vu que je vais un peu partout dans le monde, mais j'ai rien fait en France et rien à Paris, ville où je vis la moitié du temps, puisque je vis alternativement entre Paris et Berlin. Et ces deux villes, je n'arrivais pas à les photographier, hein, vraiment pas du tout. Et en mars de cette année, je suis dans le bus, je pars à la gare Montparnasse, il a plu, il y a du crachin, la vitre du bus est très humide, et je prends cette photo à la volée à travers la vitre du bus, et ces halos de lumière que vous voyez, bien c'est tout simplement la vitre du bus qui avec les lumières des travaux de Notre-Dame, des différents feux de la capitale, tout ça, etc., deviennent extrêmement présents dans l'image. Et en rentrant, je découvre cette image, je la vois tout de suite en noir et blanc. On y reviendra, hein, pour cette histoire de choix esthétique. Et je pense à la flèche, évidemment, et je me dis, mais voilà, il faut que tu fasses un pari avec cette atmosphère, et cette photo sera de la couverture de ton livre. Et j'ai dit d'ailleurs que c'était un livre à l'envers, parce qu'en fait, je ne pratique pas du tout comme ça. Je vais dans un endroit, je vais dans un pays, je me documente assez peu, parce que je me laisse surprendre par ce que je vois, et je prends énormément de photos dans un temps très, très court, hein, 2 semaines, quelquefois j'y retourne. Et c'est là, après, que le travail, je dirais, de questionnement, d'analyse et tout ça, se fait pour faire le livre. Mais au départ, c'est tout est intuitif, et tout ce qui attire mon regard, je le prends en photo. Je n'ai pas d'idée préconçue. Mais alors, là, c'est l'inverse.
Revenons à ce livre. Il y a cette photo.
Oui.
Et de cette photo, d'une photo, va donc naître une envie, un projet, qui est un projet de livre. Est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, quel est le projet, nous le décrire?
Alors, le projet, c'est de donner cette ambiance un peu, je vais employer le mot, dramatique, un peu exagérée, angoissante, dans toutes les images que je vais, à partir de cette photo, aller récolter dans Paris. Ça, c'est le fil conducteur. Je décide que ce soit en noir et blanc. Et je me dis, il faut absolument qu'on reconnaisse Paris. Ça, c'est important.
On va y revenir. On détaillera ces points-là qui sont
donc importants. C'était ça, le fil conducteur.
Ouais.
Et deux semaines après, j'ai écrit un petit texte d'introduction qu'on a dans le livre, que les gens ne regardent pas en principe ou à la fin. Mais ce texte m'a permis aussi de me guider pour faire toute la suite avec des gens. Tu as dit, il y a de l'humain. On va y revenir, et puis il y a toute cette ambiance angoissante.
Il y a ce pari, la volonté d'avoir comme ça, à partir d'une image, un pari qui est un pari méconnu, qui est un pari envoûtant, d'en faire un livre photographique, j'allais dire sans texte, ni même légende. Il y a ce petit texte en tout début, mais sinon la narration est une narration qui est uniquement au travers des images, qui vont être ta seule matière première. C'est ce que je trouve intéressant. Comment construire un livre et une narration uniquement à travers des images? Alors, je te propose, sur cette idée de narration, de nous faire entrer et de nous faire la lecture des premières pages de ton livre, et tu nous dirigeras pour nous dire quand tourner la page. Là, on est sur la première double page. C'est pour ça qu'il n'y a pas que l'image est à droite, c'est la double page de l'ouvrage.
Voilà, exactement. On va travailler un petit peu comme ça, comme si on était dans le livre. On est effectivement au début du livre, et j'ai choisi d'être dans une ambiance entre chien et loup. On va en voir, des chiens, des loups, des chiens-loups. On va même voir des hommes-chiens. On va en voir. Et cette lumière, le noir et blanc, permet justement d'avoir... on peut pas discerner la lumière artificielle de la lumière naturelle, souvent dans les photos noir et blanc, et je vais en jouer. Donc je démarre le livre avec cette photo, évidemment, que tout le monde reconnaît, l'Arc de Triomphe, mais c'est surtout de dire aux spectateurs, je vous emmène à bâton rompu, on est dans le bus de touristes, et on va foncer pour aller découvrir ce pari entre chien et loup, un peu angoissant.
Sauf que le pari que tu vas nous présenter n'est pas le pari touristique que l'on pourrait attendre.
Et justement, et là, je les choque, parce que dès qu'on tourne la page, on tombe sur cette double page, et la page de gauche, c'est une photo assez complexe qui demande de s'arrêter. Donc, on est en mouvement dans la page précédente, et là, on tombe sur cette photo qui est un reflet. C'est une mosaïque avec un tank qui rappelle un peu ce que nous vivons depuis le mois de février, avec un regard complètement hagard sur la gauche en bas, des immeubles bien parisiens, et on est obligé de s'arrêter. Et on s'arrête aussi sur la page de droite où on reconnaît bien sûr Paris, même si on ne sait pas bien lire le français, mais on voit des immeubles, et surtout cet homme, j'ai eu cette chance, c'est que je l'ai saisi, il a marqué le pas quand il a été ébloui, et c'est au moment où j'ai pris la photo, et donc là aussi, il a un regard un peu hagard, il est On a l'impression qu'il ne voit rien, ce qui est le cas, puisqu'il est ébloui, mais il est dans Paris comme un zombie, en fait, en quelque sorte. Alors, là, on commence à voir le premier chien. Et là, ce que j'ai voulu montrer, parce que c'est ces premières images là que nous sommes en train de voir, c'est un peu comme un sommaire. C'est-à-dire qu'on va retrouver un peu plus détaillé dans le livre, par séquence, tous ces éléments qui sont apparus dans les toutes premières pages du livre. Donc, ce chien et cet homme à droite, eh bien, c'est pour montrer l'errance, en fait. L'errance de la précarité. Dans Paris, il y a de plus en plus d'animaux, de plus en plus de chiens qui se baladent, qui sont errants. Il y a aussi surtout de plus en plus d'hommes. Et malheureusement, ils se retrouvent un peu comme des animaux à égal. Et cette confrontation, en fait, engage le lecteur à lire entre les deux images, en fait, pas dans chacune des images.
C'est effectivement un point qu'on va voir, c'est comment, quelle est la place du lecteur, l'histoire qu'il va pouvoir raconter entre les images. On y revient par la suite, je t'interromps pas sur cette lecture.
N'hésite pas. Là, ben, comme je vous le disais, on est un peu dans un sommaire. Là, on passe un peu à l'humain avec l'homme qui travaille dans un Paris, un Paris privilégié, puisqu'on est à l'île Saint-Louis en face, on est sur le quai de Seine, et puis ce quartier du Marais, je pense, où c'est la Fashion Week. Voilà, c'est pour un peu, avec ses lunettes bien noires, là, qui nous montre ce regard. Et là aussi, on est dans deux mondes qui se côtoient sans se regarder vraiment.
Il n'y a pas de texte, il y a l'histoire que tu peux te raconter, l'histoire qu'on peut se raconter. Mais le fait qu'il n'y ait pas de texte, c'est quand même une première contrainte, qui est une contrainte très forte. Il va y avoir d'autres contraintes qui vont diriger ton travail, qui vont créer un cadre aussi pour créer une cohérence à l'ensemble. L'une d'elles, tu en as parlé déjà brièvement, c'est que l'on puisse situer l'action à Paris. J'entends par là, on pourrait figurer Paris, mais on ne va pas uniquement montrer les bâtiments. Comment tu t'y es pris pour situer la scène à Paris, pour rendre palpable ce qui fait que c'est aussi Paris ou c'est à Paris que ça se passe?
Alors, oui, c'est les contraintes que je me suis imposées. Je me suis dit, je vais choisir quelques points très touristiques. Et je vais aller, entre chien et loup, et le soir, la nuit, aller photographier ces endroits-là, mais les photographier d'une manière un petit peu, évidemment, angoissante, pour être cohérent avec le propos que je tiens à mener. Alors, je suis pas quelqu'un qui est du soir, je suis plutôt du matin. Moi, à 9h du soir, c'est fermé, en principe, chez moi. Et donc, je me suis forcé à sortir à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant le coucher du soleil, à rester jusqu'à 11h, minuit. Bon, le samedi soir, le vendredi soir, c'est un peu plus tard, jusqu'à minuit, 1h du matin, où il y a de l'activité. Et j'ai été dans les endroits touristiques, comme là, à gauche, la place de la Bastille. Et puis à droite, ben la fête foraine des Tuileries. Ces deux images, elles sont à peu près similaires. On aurait pu les mettre seules. J'ai voulu les mettre ensemble parce que je voulais montrer qu'elles étaient similaires. Elles étaient angoissantes un peu les deux, mais il y en a une où on joue à se faire peur à la fête foraine. Je voulais qu'on voit la grande roue de Paris, mais c'est surtout se jouer à se faire peur, quoi. Alors que de l'autre côté, on a peut-être vraiment peur quand on se balade à la Bastille vers 1h du matin.
Ouais. Il y a cette volonté de rendre, en tout cas, l'ambiance de Paris, qu'on puisse situer l'action dans Paris. Une autre contrainte, tu l'as évoquée, était de rendre une ambiance forte, mystérieuse, un peu lourde, envoûtante. Est-ce que ça impose des partis pris à la prise de vue sur le choix des sujets, par exemple?
Alors non, c'est pas la prise de vue. La prise de vue, c'est le hasard. Le hasard, c'est pour la prise de vue. La prise de vue, comme tout photographe de rue, puisque sur les 72 photos du livre, il y en a que deux qui sont faites en intérieur. Tout le reste, c'est fait dans la rue. La plupart du temps, sur le vif, et souvent d'ailleurs en marchant, en me déplaçant, sans m'arrêter. Non, il n'y a pas de choix. Le choix se fait après. C'est-à-dire que je sors, évidemment que j'ai dans ma tête de trouver des scènes, des personnages, des situations qui vont aller dans le propos que je recherche. Mais si je trouve quelque chose qui m'intéresse et qui va pas forcément là-dedans, je vais le prendre aussi. Hein. Mmh. Mais il n'y a pas, c'est très intuitif, hein, la prise de vue. Hein. Enfin, je la vois comme ça en ce qui me concerne. Hein. Mmh. C'est pas vraiment construit. Hein. Ouais, à part l'image de droite, hein, qui est construite, puisque c'est la photo d'un graffiti avec des collages successifs assez grands. Pour le rendre, il n'existe plus. Hein, un mois après, il y a eu d'autres collages dessus. Mais pour vous rendre compte de la taille, on voit la petite bouteille en bas à droite qui était sur le graffiti. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien justement dans cette atmosphère de Paris.
Ouais. Donc c'est des photos vraiment à l'inspiration. Il n'y a pas forcément de repérage.
Non.
C'est, je reprenais une question que nous posait Lio sur le chat. Il y a un point que je trouve passionnant dans le fait de construire un livre comme ça, une narration, c'est que quand on raconte une histoire, il faut opter pour un style approprié au propos. Par exemple, l'écriture d'un conte n'est pas la même que l'écriture d'un polar. On n'a pas le même style. Toi, tu as opté pour un style, véritablement, pour cet ouvrage. Comment est-ce que tu pourrais définir peut-être le style, justement, que tu as choisi revêtir.
Mais pour cet ouvrage, carrément, je pense que c'est un style expressionniste, mais vraiment à fond. Alors, ça veut dire quoi, expressionniste? C'est déformer la réalité, hein, c'est exagérer les choses, exagérer les sentiments, puisque le but de l'expressionnisme, c'est uniquement, il n'y a qu'un seul but, c'est uniquement provoquer chez le spectateur de l'émotion. C'est vraiment, tout est fait, tous les moyens sont bons pour provoquer de l'émotion. Ouais.
Quand on pense à l'expressionnisme, on peut penser évidemment à l'expressionnisme allemand, les années 20, Murnau, etc. en cinéma, mais il y a des termes qui là sont véritablement importants, et il faut bien qu'on comprenne qu'ils vont dicter le travail. C'est revendiquer une certaine subjectivité dans le choix, dans le regard. Tout le regard est subjectif, mais là, il y a revendiqué une subjectivité, du coup, qui permet de déformer la réalité.
Et donc,
parfois, dans le but, si je comprends bien, de susciter des réactions ou de susciter une émotion de la personne qui regarde.
Oui, ça, c'est vraiment l'objectif. Hein.
Ouais.
Et comme tu l'as dit, ça se fait dans le choix des images, que l'on va, parce que il faut de la matière première. Tu as parlé de matière première, fin de compte, c'est ça. Quand on fait, en ce qui me concerne, quand je fais des livres, il faut que j'ai un maximum de matière première. Hein, il faut que j'ai à peu près 400 photos, hein, que je trouve correctes. Et de ces 400, je vais pouvoir avec ça fabriquer mon histoire pour arriver à ce que les spectateurs ressentent vraiment de l'émotion.
C'est et ça, vous nous direz. D'ailleurs, sur le chat, je vois certaines photos qui, on en parlera un tout petit peu après, mais qui peuvent questionner, interloquer, mettre un petit peu mal à l'aise. Il y a le choix du noir et blanc aussi, puisqu'on parle de style, on parle d'expressionnisme, mais là, c'est du noir et blanc, alors que j'ai lu que tu étais un photographe qui te définissait plutôt comme un photographe de la couleur. Est-ce que opter pour le noir et blanc pour ce projet, ça a été un choix difficile à faire, un peu contre nature?
Pas du tout. Alors, pas contre nature, pas difficile. J'ai aucune religion. Pour moi, le style, c'est un choix esthétique, en fait. C'est pas une finalité. Hein, donc, la couleur, c'est mon goût. J'adore les films couleurs, j'adore les ouvrages couleurs, les photos couleurs, c'est vraiment mon goût, mais suivant le sujet, j'ai aucun problème pour utiliser un autre protocole esthétique. On appelle le style, hein, des noirs et blancs extrêmement bouchés, il y a différentes manières, mais voilà, donc pas de problème de ce côté-là.
On entend un petit frottement juste de ton micro.
Ah oui, je vais faire attention.
Voilà, sur ça, ce qu'on voulait appuyer, et on va répondre à la question de Nicolas sur la narration tout de suite, peu de temps après. Le but, c'est déjà quand on raconte une histoire, c'est d'opter pour un style. Et ce que j'entends, c'est que toi, en tout cas, tu peux faire varier les styles en fonction des projets. Souvent, on peut se focaliser sur le style d'un photographe, mais c'est pas forcément ce qui le caractérise.
Ouais. Non, je crois pas. Je pense que ce qui caractérise un photographe, c'est son regard, sa vision en fait des choses. Ouais. Alors, sa vision, c'est quoi ? Ce sont ses images ou sa séquence d'images. C'est le hors-champ de ces images, ce qu'il montre, ce qu'il ne montre pas, mais ce qu'il laisse découvrir. Je peux citer un exemple, hein, Salgado qui a un style et il a toujours le même. Mais en fait, quand je vais voir des photos de lui, je l'oublie son style. Comme je le connais, j'ai pas de surprise. Je m'en tiens à son regard qu'il a sur tout ce qu'il a pu faire dans toute sa carrière, si tu veux. Ouais.
Mais en tout cas, revenons au style et à l'expressionnisme pour déformer la réalité. Ça, c'est l'idée. Susciter une réaction. Tu vas user de différents procédés artistiques pour déformer la réalité. Tu vas, sur certaines images, travailler à déformer ou à exagérer le mouvement, comme on le voit sur cette image, qui étonne un petit peu parce que moi, je me demande comment, outre le ressenti, mais comment l'image est possible. Il y a quelque chose qui marche pas dans mon cerveau.
Eh bien, écoute, je vais t'expliquer un peu tout ça. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de déchets. Hein. C'est au mieux, on a une photo sur 100 qui est bonne. Et quand on essaye ce genre d'image, c'est plutôt une sur 200. Hein, je sais pas, mais c'est pas facile. Enfin, c'est pas que c'est pas facile, c'est qu'on essaye. Ce sont toujours des essais techniques. Il faut pas croire qu'on est capable de le faire comme ça. Enfin, en ce qui me concerne,
Dis-moi.
Alors, je te dis, c'est une vitesse très lente. Je suis à presque une seconde. Et cette femme court pour aller courir au bord de Seine. Et moi, je descends les marches aussi très vite pour la suivre et pour garder la même distance. Presque 7 secondes, c'est 0,8 secondes en fait, il faut que je garde la même distance pour qu'elle soit imprégnée par le capteur.
D'accord. Voilà. Et effectivement, on a...
Et ça fait des doubles impressions en fait.
Ouais, on a un rendu du coup assez photomatique, c'est presque de l'ICM, nous dit Sabrina sur le chat, ça peut effectivement faire penser à ces...
Je vais aller voir sa chronique, oui.
Ouais, on voit une autre image toujours sur cette idée. On va y passer peut-être un petit peu plus rapidement, mais d'exagérer ou de rendre le mouvement. Est-ce que tu peux nous en parler de cette image qui est étonnante quand même?
Oui, mais là aussi c'est un filet en fait. Hein. Je suis à la fête foraine et puis j'ai fait je sais pas combien, peut-être une trentaine ou une quarantaine d'essais en suivant ce manège qui monte très haut là aux Tuileries et et j'ai gardé celle-là parce que il y a dans le livre c'est pas que négatif, hein, il se termine bien quand même, j'espère. Mais voilà, donc là il y a des gens qui s'amusent, qui s'éclatent et elle a l'air vraiment d'être heureuse et de le montrer tout du moins.
L'exagération du mouvement, tu vas user peut-être un autre effet qui est renforcer les effets dramatique, la tension sur cette image du fait du cadrage de la face du visage comme ça de l'homme est très palpable. Ça, c'est une photo que tu as prise, c'est quoi, c'est à hauteur de hanche?
C'est au jugé, je suis au 28 mm, hein, j'ai un petit hybride, 4 tiers, et je marche, hein, je fais beaucoup de photos en marchant, et je déclenche, j'ai l'impression de voir quelque chose d'intéressant, et tac, j'appuie en marchant sans m'arrêter, et je saisis, voilà, là, elle a été saisie comme ça, hein, et je l'ai sur le ventre, mais il y en a beaucoup qui sont faites comme ça. Mais encore une fois, je répète, hein, s'il y a beaucoup de déchets, hein, il faut pas croire que c'est...
Oui, mais forcément, je comprends que l'histoire se dessine après par... Enfin, je parle d'histoire, c'est pas vraiment la narration.
Et la narration, c'est après, quoi. C'est-à-dire que cette photo m'a touché. Ouais. Je trouve que cette expression est angoissante, il y a de la tension.
Oui, bien sûr.
Hein,
ouais.
Et ce n'est que le visage. Hein. Ouais. Alors...
Et on la sent, cette tension. J'aimerais bien que les gens nous disent si le ressenti chez eux est le même. Et surtout, pour l'image suivante. Sur cette image, oui. L'attention est palpable. Cette image, c'est peut-être une des images que je préfère du livre. Il y a quelque chose d'étonnant. Je trouve qu'il y a comme un malaise qui sourde sans qu'on arrive à mettre véritablement le doigt dessus. Ça pourrait être peut-être pour ça, parce que c'est une photo de rue qui pourrait être très bien cadrée et très bien rythmée. Et en même temps, il y a comme des verticalités contrariées du panneau d'affichage et de la fille qui a un visage très très rigide.
Très rigide, ouais. Très expressif.
Ouais.
Alors, c'est là, on va comparer cette photo à celle d'avant, hein, parce que celle d'avant, c'est le visage seulement. Hein,
ouais.
C'est comme si on avait fait un détourage, hein, presque le visage. Alors, ouais. On revient sur cette jeune fille. J'ai l'appareil sur le ventre aussi. Et par contre, je la vois tourner et je vois qu'elle a une sacrée allure déjà au départ et je la fixe. Je la fixe parce qu'elle a même pas vu l'appareil, puisque elle fixe pas l'appareil, elle fixe mes yeux. Et j'ai fait cette photo qui est un cadeau pour moi, parce que là, on a un portrait, mais qui n'est pas uniquement le visage, c'est aussi l'expression corporelle.
Ouais.
Hein, on a l'impression qu'elle est en équilibre que sur un pied, qu'il lui manque une jambe. Bon, il y a tout un tas d'éléments dans la photo, avec le portail foncé, et puis le faux portail à gauche qui est plus clair, et puis la fille qui finit la photo. Bon, voilà, c'est... Ouais. Mais c'est surtout cette expression... On s'en souvient, ce regard-là, on s'en souvient, j'ai l'impression.
Ouais, le regard,
l'expression,
les corps qui penchent comme ça en avant. Effectivement, il y a quelque chose qui est moins évident que sur la photo précédente, mais dont je trouve le ressenti extrêmement fort. Souligner la tension, accentuer les tensions, c'était un deuxième procédé que tu utilisais. Il y en a un troisième qu'on voit. Là, on est sur une double page avec l'accentuation. Ou le jeu, en tout cas, sur les contrastes. Il y a une accentuation des contrastes au sein même des images, mais là, c'est véritablement sur une double page que ça se joue.
Oui, oui, tout à fait. Et cette jeune femme à gauche, il y a un effet trompe-l'œil aussi. D'abord, il y a son expression. Hein. Je l'ai vue au loin, elle n'a pas bougé, j'ai marché vers elle, j'ai dû faire, je ne sais pas, 6 ou 7 photos les unes derrière les autres. En marchant vers elle, et c'est la dernière où je suis le plus près qui est la meilleure. Mais surtout, ce qui est l'ambiguïté de cette image, c'est qu'elle a un sticker derrière qui est collé sur son arrière-plan et qui fait croire qu'elle a une collerette. Et donc, il y a tout un imaginaire qui se met en place dans notre tête, qui se connecte avec son regard. Vraiment, on se demande à quoi elle pense, où elle en est, etc. Et puis là, justement, on est peut-être dans ses pensées, là, à droite. Hein. Là, on rentre peut-être dans son cerveau. Mais là encore, je me fais mon cinéma pour faire ma narration.
Ouais.
C'est pas la narration que va percevoir le spectateur. Il la connaît pas.
Non.
Normalement, je raconte pas ce qui me guide à faire la narration. C'est au spectateur de faire la sienne.
Mais là, on comprend bien qu'en tout cas, la mise en regard de ces deux images.
Le contraste,
Le contraste, robe blanche sur fond gris, silhouette noire sur fond clair. Il y a un côté
exagéré,
vice versa, ou qui est intéressant. En tout cas, qui crée un questionnement et qui est un départ possible pour une histoire. Les procédés là dont on a parlé, le fait d'exagérer, le mouvement, de renforcer les effets dramatiques, de souligner ou d'accentuer les contrastes, caractérisent en art, c'est des points qui caractérisent le style baroque, en fait. Et ça définit très bien la grammaire photo de ce projet. Opter pour un style va contribuer à créer et à donner une harmonie, une cohérence graphique forte à l'ensemble. Et ce style, l'usage, le choix d'user de ce style va servir une intention et un fil conducteur, en fait, de l'ouvrage.
Oui, il faut bien séparer l'harmonie et l'homogénéité. Ça, c'est pour la forme, pour le côté formel de l'ouvrage, des photos, de sa mise en page, tout ça, etc., de la cohérence. La cohérence, c'est le propos.
Hein.
Et là, il faut qu'on soit toujours dans ce côté mystérieux, angoissant et captivant. On va y revenir.
Est-ce que Chantal nous demandait la focale, si tu utilises différentes focales, tu as quoi comme, euh, quel appareil tu utilises et quelle focale tu utilises?
Alors, j'utilise un petit Lumix GX9.
D'accord.
J'ai deux focales fixes, un équivalent 50 et un équivalent 28. Et puis, j'ai un petit zoom qui est un équivalent 24-64.
Ouais. Mais je crois qu'on a...
On a le même.
Sur le chat me dit qu'on a, on a le même, effectivement.
Bon. Alors, écoutez, pour confidence, j'avais de très gros appareils. Ouais. Mais vraiment, j'étais vraiment équipé en gros réflexe et j'ai tout vendu en février de cette année. Et ça m'a redonné de la liberté d'avoir ce petit appareil.
Oui, d'être plus léger.
Je suis plus léger, plus libre. Et je passe inaperçu, c'est très discret. Ouais. Voilà, je suis ravi.
Maintenant,
on s'est écarté.
On a répondu à une question aussi.
Oui, c'est vrai.
On a l'esprit choisir un style. Là, c'est l'expressionnisme baroque, ouais. Mais en l'occurrence, peu importe les termes, en fait, c'est de bien comprendre pourquoi tu vas utiliser ces procédés pour construire une ambiance et une histoire, une construction narrative plus qu'une histoire. Maintenant, on va s'intéresser à la façon dont tu construis tes pages et la narration de ton ouvrage.
Ouais.
Il t'a fallu gérer les temps forts, des temps plus faibles, penser le rapport page de gauche, page de droite. C'est très, très riche quand on fait pas simplement une photo, mais qu'on fait un livre photographique. Les questions sont innombrables et vraiment les questionnements sont passionnants. Est-ce qu'on peut regarder une séquence qu'on a choisie justement parler de ce rapport d'agencement des images l'une par rapport à l'autre, les unes par rapport aux autres dans une séquence?
Eh bien, exactement, on va en parler. Et ce qui est, alors déjà, il y a une contrainte ou un choix plutôt, c'est d'être sur un fond noir.
Ouais.
Hein. Donc on est comme au cinéma, parce que c'est le cinéma qui m'inspire beaucoup, hein. Et on est comme au cinéma, sauf que moi je ne peux pas, l'écran est fixe et la caméra se déplace. Moi je peux pas déplacer la caméra. Donc j'ai fait un choix qui est d'avoir des formats différents. On a du carré, on a du plein, on va le voir, du plein page, on a du rectangulaire, du vertical. C'est ce qui fait ce côté baroque d'ailleurs. Hein. Dans baroque, il y a aussi, tout en gardant la cohérence, on casse un peu l'harmonie, on casse un peu l'homogénéité. Donc là, qu'est-ce que j'ai voulu faire là, je suis au 28 mm. C'est pas un chien que je suis en train de montrer, en fait, dans ma tête, dans ma narration. C'est l'agressivité que l'on a. L'agressivité qu'on a dans les rues de Paris, quand il fait nuit, dans certains quartiers, tout ça, etc. Et ce chien, il est, regardez, il y a le rideau métallique, il est dans la rue, lui. Alors que l'homme à droite, il est caché derrière son rideau métallique et avec des yeux inquiets, en permanence, c'est un peu cette angoisse là que j'ai voulu traduire.
Ouais, je crois que c'est Nicolas qui nous posait la question de savoir tout à l'heure si c'était un agencement d'images avec un même état d'esprit ou s'il y avait vraiment une narration. Ça se lit pas de façon chronologique. On va y revenir un peu à la fin.
Non, il y a aucune chronologie.
Mais de la façon dont tu mets en regard deux images comme ça, il y a un début d'histoire ou en tout cas ça dit quelque chose. On a effectivement cette violence. Avec ce gros plan comme ça qui nous met la tête dans la gueule du chien, et il y a les gens qui ne veulent pas voir, qui sont chez eux, protégés par leur rideau de fer, et qui détournent le regard.
Ouais.
On va enchaîner sur la prochaine double page.
Bah là aussi, c'est on est un peu dans le même rapport. C'est là par contre, on est avec l'enfance. Cet enfant qui voit ce chien qui n'est pas un chien noir, qui est un chien blanc, ce qui est déjà un peu plus rare, avec un œil à moitié amoché, hein. En fait c'est une caractéristique des chats blancs. Les chats blancs ont souvent une malformation comme ça, et là aussi ça crée une angoisse, une tension, c'est l'étranger, c'est rare de voir ça, donc c'est un peu ce que j'essaie de mettre en place.
Ouais, et puis il y a un malaise clair, d'autant que le chat est mis dans un format assez imposant par rapport au jeune homme sur la page précédente. Il est dans un blanc éclatant sur un fond noir. On voit que lui et son œil comme ça.
Et c'est pas la même distance par rapport au sujet. Hein. Mmh. Donc là, on casse l'harmonie, on casse l'homogénéité, mais on essaie de garder une cohérence avec ce blanc, ce noir, ce contraste, etc. Et puis aussi la position de du jeune garçon en bas de la page pour que le regard soit en ligne avec le reste.
Ouais.
Et on est toujours avec cette inquiétude. Hein, les loups, je ne sais pas si c'est un loup, un renard ou ce qu'on veut, mais c'est les loups qui rentrent dans Paris, qui tient un doudou dans la gueule, avec la mère qui s'inquiète, et puis c'est ce loup qui sort comme un fantôme, hein, comme un passe-muraille qui sort du mur. Là aussi, on a le même principe technique, c'est-à-dire que c'est presque une seconde de temps de pause, hein, qui fait croire, en fin de compte, il est en train d'uriner le chien pour vous raconter toute l'histoire.
Et on a ces animaux que l'on retrouve sur la page qui suit avec le chien parisien ou le chien.
Voilà, alors c'est le chien déconstruit, hein, déconstruit qui court. Il est déconstruit par la Tour Eiffel. En fin de compte, c'est un amalgame de Tour Eiffel qui s'en va. Il va percuter l'humain, plutôt le Parisien pressé en vélo qui roule de plus en plus vite. Toujours cette notion de vitesse, on est speed dans Paris, on est c'est stressant quoi.
Ouais. Et à Paris, il y a aussi la pauvreté.
Il y a la misère. Alors là, je voudrais m'arrêter justement sur tu disais le principe esthétique. Hein.
Ouais.
Vous voyez, je donne énormément de place à la photo de droite. Elle fait la moitié de la double page et là, je vois que il y a des nuances de gris très douces. Je suis en train de rendre esthétique la misère. Vraiment, elle est esthétique. Et normalement, en harmonie, hein, en homogénéité, j'aurais dû avoir les mêmes nuances de gris sur la photo de gauche.
Ouais.
Eh bien non. Alors déjà, je l'ai fait plus petit, au même niveau que le personnage à droite. Et regardez comme les noirs et blancs sont très durs, parce que la photo est dure. Et je l'ai fait plus petite pour pas faire le voyeur, mais pour faire le lien, en fait. C'est pour montrer que c'est pas si beau que ça. On peut voir de la beauté, mais voilà, c'est ça la dureté aussi. Hein.
Ouais.
Il pleut, etc.
C'est vrai que sur la photo de droite, on a quasiment avec l'éclairage et puis l'endroit, il y a presque l'élégance du statuaire. On pourrait voir une statue comme ça, mise en confrontation avec la photo de gauche. Elle raconte quelque chose d'autre, de même que la double page qui suit et qui va créer une boucle. En fait,
oui.
Alors là, on a deux photos que tu n'as pas voulu mettre en grand format déjà.
Voilà. J'ai pas voulu les mettre en grand format. Et il faut que tu saches que ces photos, je ne voulais pas les mettre quand je les ai vues individuellement. Je voulais pas les mettre dans le livre, en fait. Parce que photographier un SDF dans la rue comme ça, même si les mains et le visage étaient pour moi très belles, mais bon, c'est pas mon truc. Par contre, quand j'ai vu, par hasard, en faisant cette narration dans ma matière première, je vois cette photo que j'ai prise. Et ton chien, c'est quelle marque ? Là, on n'est pas dans. Elles sont pas complémentaires en fait. Elles sont en opposition. Et c'est deux mondes qui vivent à côté et qui sont complètement séparés. C'est-à-dire, c'est cette précarité qu'on retrouve à gauche. Et puis ces personnes à droite qui ont les moyens de s'acheter un chien à 10 000 euros.
Et moi, ce que je trouve passionnant dans le fait de construire un livre comme ça et du coup de gérer la double page, je veux bien qu'on remette l'image, Sylvain, c'est que gérer une double page, c'est gérer la place de l'image dans la page, mais gérer tout l'espace vide entre ces images. Et le fait que ces images soient très en petit format et du coup très séparées, ça crée physiquement la distance dont tu parlais, entre ces deux mondes pour lesquels on voit qu'il n'y a pas de rencontre possible, en tout cas, c'est l'image qu'on peut avoir, en tout cas, de la confrontation de ces doubles pages. Frédéric, qui va faire l'intervention et la chronique qui suit, me demande, sur notre petite chat privée à nous, si tu es inspiré par Bill Brandt.
Non, pas spécialement.
Pas forcément. Ouais. Eh ben, écoute, c'est peut-être une.
Mais je vais le regarder de plus près parce que je le connais pas bien. Donc, je vais plutôt regarder.
Ben, il y a peut-être une parenté de regard ou en tout cas une familiarité.
Je suis plutôt inspiré par Trent Park pour répondre.
Dont on a vu une image, mais un petit peu différente avec Judas. Ce que. Pardon, je t'ai interrompu.
Oui, parce que je voudrais revenir sur ce que tu as dit sur les deux petites images, la séparation est plus grande, etc. Dans l'objet livre, c'est une spirale métallique noire et elle accentue encore cette séparation quand on a l'objet en main, ce qui n'est pas le cas de l'écran, quoi.
Ouais. Et là, il n'y a pas de vérité, en fait, qu'on essaye de faire ressortir en montrant ton travail, mais des questionnements que moi je trouve extrêmement intéressants, de se dire si je sors de l'image seule, prise isolément ou du diaporama, et si je veux au travers d'un livre raconter quelque chose, comment je vais gérer la construction d'une double page, comment je vais gérer l'objet livre. Gildas fait des formations qui sont passionnantes aussi sur le sujet, mais je trouve que là on a une application concrète de ces questionnements que je trouve très très intéressante. Ouais,
j'en suis le produit de ce que fait Gildas.
Ouais. Et le terme de narration, et c'est un point que je voulais appuyer, ne veut pas forcément dire qu'il y a une chronologie, qu'on raconte une histoire pour laquelle il y aurait un début, un milieu, une fin. Et dans ton livre, moi, j'ai le sentiment que tu laisses le lecteur libre d'errer. On évolue dans ces pages à la rencontre de différents visages de Paris. Le Paris des bas-fonds, le Paris Babylone, le Paris de la jeunesse nocturne et des mystères. Que c'est presque une cartographie photographique et fantasmée de la ville que tu partages. Est-ce que ça te parle, ce ressenti? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages?
Mais écoute, je vais le résumer en deux choses. C'est une mélodie visuelle, en fait.
Ouais.
C'est une mélodie visuelle, donc c'est une musique, mais qui est visuelle. Et chacun va se construire avec ses doubles pages, avec ses séquences, avec chacune des photographies, sa propre narration, en fait.
Ouais.
C'est ça qui va être beaucoup plus intéressante, parce que ça va être une expérience pour le spectateur, surtout s'il n'a pas connaissance de ce qui m'a motivé de le faire, et je parle de la construction de la narration, s'il n'a pas la connaissance, c'est à lui, comme tu as dit, qu'il va se frayer un chemin, il va se créer sa propre expérience en fonction de lui-même, du moment qu'il vit, de son histoire et de tout ça. Ce que j'espère, en tous les cas.
Bah, écoute, je pense que c'est un bon mot pour résumer, et en tout cas pour clore ce moment passé ensemble. Merci beaucoup à Pierre d'avoir passé ce temps avec nous à parler de tes images et de ton livre. Vous pouvez, on mettra les références bien sûr du site de Pierre en commentaire de la vidéo. Au travers de ce projet, moi, en tout cas, je trouve que tu nous proposes une expérience qui est effectivement sensorielle, presque mémorielle.
Oui.
Nous fait ressentir cette face sombre d'un Paris oublié, de son noir passé. Et au final, avec une subjectivité qui est évidemment assumée, tu captes, je trouve, avec beaucoup de finesse, un certain esprit des lieux. En tout cas, on ressent, et au travers de ce voyage, beaucoup, beaucoup de choses.
Merci beaucoup.
Merci, Pierre. Tu ne quittes pas.
Ah non,
on se retrouve à la fin de l'émission pour une petite recommandation.
Je veux voir les portraits.
Maintenant, qui arrive sur le tard, but last but not least, Frédéric va nous rejoindre. Alors, je te dis pas bonjour, bonsoir,
rebonsoir. Rebonsoir. Voilà.
Tu as choisi aujourd'hui, dans ta chronique, de nous parler du portrait en photographie.
Oui, alors ce soir, on va parler de portrait. Le portrait en photographie, c'est une pratique qui est presque aussi ancienne que la photographie elle-même, puisque le premier portrait photographique est daté de 1839, c'est Robert Cornelius, et c'est assez original parce que c'est un daguerréotype, et c'est aussi le premier autoportrait. Alors, c'est officiellement le premier, il y en a peut-être eu avant, mais on n'a pas de traces. Voilà. Donc, cette pratique du portrait va se développer dans la photo très très rapidement, et les photographes vont s'en emparer. Alors, il y a trois axes selon lesquels les photographes s'emparent du portrait: le portrait posé en studio, ou en lumière artificielle ou naturelle, ce qu'on va appeler le portrait sur le vif, qui peut se rapprocher un petit peu du reportage, c'est ce qu'a très bien fait Pierre dans la séquence précédente, et l'autoportrait.
Ouais. D'ailleurs, je dévoile un petit peu l'avenir de cette émission. Dans une prochaine émission, tu consacreras une chronique à l'autoportrait.
Oui, alors je laisse de côté ce soir l'autoportrait parce que c'est tellement important et présent et fréquent dans la photographie que ça nécessite une chronique en entier. Alors il y a eu Nadar, Avedon, Kétas, Leibovitz et tant de photographes qui ont fait des portraits. Ce soir, je vais vous en présenter trois. Alors ceux que j'ai choisis, pourquoi je les ai choisis? Parce que leur travail offre des clés pour comprendre comment faire du portrait et comment comprendre un petit peu le monde qui nous entoure.
Ouais. Et quand on parle de photographie, et de photographie de portrait, il serait dommage, tu l'as mentionné un petit peu en introduction, de ne pas s'intéresser à la photographie africaine.
Oui, celle-ci a pourtant une part non négligeable. J'ai tout à l'heure cité, enfin, je viens de citer Seydou Keita, un Malien, mais je vais parler plus en détail d'un autre photographe malien qui est Malik Sidibé. Alors, Malik Sidibé, donc on l'a à l'écran, c'est un portrait de lui, un autoportrait. Il est né en 1936 à Soloba, au Mali. Et il décède de 70 ans plus tard, en 2016, à Bamako, la capitale. Il a d'abord été cultivateur, pasteur, et en 1955, il entre dans un studio photographique tenu par un Français. Il faut savoir que le Mali était français à l'époque, où il apprend la photographie. En 1962, à l'indépendance du Mali, il s'installe dans un quartier populaire de Bamako, où il va rester toute sa vie. Et il va tout d'abord photographier la vie bamakoise, la vie nocturne bamakoise. On peut avoir un exemple à l'écran, avec notamment des soirées dansantes, pardon. Il chronique alors un Mali qui est en pleine accession à l'indépendance, où tout semble permis, le pays s'est libéré du joug français, on danse, on chante, on fait la fête, on danse le twist notamment, et on retrouve sur ces photos des codes qui sont très européens, hein, on porte des vêtements très occidentaux, on danse le twist, ces photos sont en fait un témoignage d'une époque, et c'est aussi ce qui fait leur très grande force. On surnommera donc Malik Sidibé l'œil de Bamako. Et à partir des années 70, il va tourner sa pratique vers quelque chose de beaucoup plus studio, comme ce qu'on a à l'écran. Ses portraits ont quelque chose, quand on regarde, de très moderne, hein, dans les tenues notamment. Alors, il faut recadrer, replacer dans l'époque, hein, dans les années 70-80. On est très très loin des clichés qu'on accole en général à l'Afrique. Hein. Et surtout, ce qui moi me paraît fondamental dans la pratique photographique de Malik Sidibé, c'est qu'il photographie l'endroit où il vit. Et des gens qu'il côtoie tous les jours. Et je pense que c'est une des choses fondamentales quand on fait du portrait, c'est de créer une proximité, avec ses modèles. Hein. Cette proximité, elle va permettre de réaliser des beaux portraits, des portraits pleins de vie. Et j'engage les photographes qui veulent travailler le portrait à justement créer un lien avec leur modèle, à créer une forme de connivence. À prendre du temps, hein, c'est quelque chose d'être long, et c'est ce qu'a fait Sidibé toute sa vie. C'est un des premiers photographes africains qui recevra les honneurs des musées européens et américains avant son décès. Ouais.
Effectivement, tu as raison, et c'est intéressant d'appuyer ce point, de photographier d'abord là où on vit et les gens qu'on côtoie tous les jours. Le deuxième photographe que tu nous présentes est pour moi une découverte, donc merci. Quelle découverte, parce que je suis très heureux que tu puisses aujourd'hui nous en parler. Il s'agit de Pierre Gonnord.
Oui, alors Pierre Gonnord est un photographe français. Il est né en 1963 à Cholet. Rien ne le destine initialement à la photographie. Et puis, son frère décède subitement. Et Pierre Gonnord, qui travaille dans la finance, décide de tout quitter et de se lancer comme photographe, de vivre de la photographie. Pardon. Et à partir de 1988, il décide de vivre en Espagne. Alors, Pierre Gonnord, il va choisir de s'intéresser à des individus en marge de la société, on va dire. On lui doit des séries notamment sur les Yakuza, les mafieux japonais, la photo qu'on a à l'écran. Et ce qui est très intéressant dans le travail de Pierre Gonnord, c'est la façon dont il met en scène ses modèles. Il utilise un fond noir, des éclairages très doux, très délicats, un traitement qui donne la sensation, l'impression que ces images sont presque des portraits classiques. Il travaille à la chambre, Pierre Gonnord. Et c'est ce qui va définir son style. Ainsi, il va s'attarder, en voyageant, en vivant à l'étranger, à rencontrer des gens qui, finalement, sont très en marge, et ce sont les communautés gitanes d'Espagne et du Portugal, avec lesquelles il va même vivre. Là aussi, cette proximité, ce quotidien, ça permet de créer une confiance avec les sujets, de rentrer en lien avec eux.
Ouais. Là, on voit une image justement qui est impressionnante déjà, quel regard. Mais en plus, il y a une anecdote sur ce portrait d'une femme gitane qui est assez savoureuse.
Oui, alors cette femme, elle s'appelle Maria, et effectivement, j'ai vu le tirage en vrai, c'est extrêmement impressionnant, c'est un grand, grand tirage. Et Maria est la femme du chef d'une communauté gitane du sud de l'Espagne, d'Andalousie, et elle refuse que Pierre la prenne en photo, elle veut pas. Et dans cette communauté, elle a une concurrente, on va dire, une autre femme qui est l'épouse d'un autre chef de clan, et l'autre femme accepte. Et le jour où Maria apprend que Pierre Gonor a pu photographier cette autre femme, elle va voir Pierre et lui dit « Tu me prends en photo maintenant. » Voilà.
Et on lui dit pas non, j'imagine.
Et non, voilà, quand on voit le regard d'Adam, on dit pas non. Enfin, c'est saisissant, c'est vraiment saisissant. Mais Pierre, il va photographier aussi des mineurs des Asturies, c'est les mines de charbon d'Espagne qui peu à peu ferment, et il les prend au moment où ils ressortent du puits de mine, en fait, à la remontée, en fait.
Ouais. Et effectivement, tu l'as dit, il y a une beauté qui est très classique dans son travail. On a l'impression d'être devant des tableaux. Moi, j'ai presque l'impression parfois de portrait Renaissance avec ces images.
Oui, c'est tout à fait ça. On est proche du portrait Renaissance, mais avec une différence fondamentale quand même, c'est que les toiles de la Renaissance représentaient dans le portrait des personnes relativement aisées, souvent de la noblesse, parfois de la bourgeoisie. Or, Pierre Gonor s'intéresse à des gens qui sont plutôt, j'allais pas dire des marginaux, mais des gens un peu en rupture, ou plutôt pauvres. Hein, les mineurs des Asturies, c'est pas ce qu'il y a de plus riche. Les gitans d'Andalousie ou du sud du Portugal, c'est des gens, des communautés, qui vivent difficilement. Et donc, j'aime beaucoup ce contraste, moi, entre ce traitement très, comme tu le dis, Renaissance, et les gens qui sont représentés. Il y a un vrai décalage. Et donc, pour moi, il y a quelque chose, je trouve, de politique dans ce que fait Pierre Gonor, c'est-à-dire de mettre en avant ces gens qui, finalement, sont, j'aime pas le mot marginaux, mais sont un peu à part dans la société.
Ouais, là, ça peut être pas des déclassés, mais effectivement, c'est pas les gens que l'on représente le plus souvent.
Non.
Deuxième photographe, donc Pierre Gonor, il y en a un troisième, qui, je crois, en plus, tient une place particulière pour toi. Il s'agit de Anders Petersen.
Oui, Anders Petersen, c'est un photographe extrêmement important dans ma pratique photo et puis dans mon envie d'écrire sur les livres photo. Il a écrit un livre qui s'appelle Café Leibniz, et son regard de photographe a déclenché beaucoup de choses chez moi. Alors, pendant 3 ans, de 1967 à 1970, Petersen, il s'est installé à Hambourg, en Allemagne. Et il allait dans un café très populaire, le Café Leibniz, ce qu'on appellera un bistrot en France. Alors, ce n'est pas un portraitiste pur et dur, Petersen. Ce n'est pas quelqu'un de studio, par exemple. Mais pour moi, ce livre, Café Leibniz, c'est vraiment une bible pour qui veut se lancer dans la photographie de portrait. On trouve des gens qui sont des personnages très hauts en couleur, plus ou moins marginaux, heureux, malheureux. Mais ce qui fait la force pour moi du travail de Petersen, au-delà de son noir et blanc qui est très très célèbre, c'est toute l'humanité et la simplicité qui se dégage de ses photographies. Les gens ici sont très naturels, parce que, comme chez Sidi Bé, par exemple, et pour une raison très simple, c'est que Petersen ne vole pas les images. En fait, Petersen, les premières fois où il est arrivé dans ce bar, il avait un Leica, il n'a pas pris de photo, il a posé son Leica sur le comptoir, il est allé aux toilettes. Et en fait, en revenant, il y avait des gens qui faisaient des photos avec son Leica. Alors, moi, je passe le type de photos qui pouvaient être faites. Et il les a laissées faire. Et en fait, en laissant cette confiance, il a gagné la confiance des gens et il a pu travailler avec eux. Et je pense que c'est une chose importante de gagner la confiance des gens qui ont fait des photos. Je voulais terminer par une toute petite anecdote. Une des photos de Café Leibniz sert de photographie de couverture à l'album Rain Dog de Tom Waits. Voilà.
C'est une belle fin.
Oui.
Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Frédéric.
Merci, Ilan. Merci à
pour
tous.
Pour ta chronique, pour la découverte aussi. Restez avec nous parce que, plutôt que de se dire au revoir comme ça, je vais demander à l'ensemble des intervenants, des chroniqueurs à l'émission, de revenir avec moi à l'antenne pour un petit tour de table, l'heure qui partage avec vous un coup de cœur, récent ou pas, un photographe qu'il vous encourage à découvrir, un photographe ou pas d'ailleurs. On va commencer ce tour de table avec Valérie juste avant, parce que moi aussi j'ai une petite recommandation. On est sur la période des fêtes de fin d'année. Avec Studio Gimini, on propose une belle enveloppe cadeau qui permet d'accéder un an à toutes nos masterclass photos sur notre site Studio Gimini. Vous pouvez aller voir. Voilà, c'était le petit moment très rapide pour en discuter. Valérie, on commence par toi, le tour de table. On va garder le même ordre. Tu vas nous parler d'un artiste qui s'appelle David Planeta.
Oui, David avec un W. C'est une image, je suis tombée dessus complètement par hasard et je ne sais pas pourquoi, elle a touché quelque chose en moi. Je la trouve pleine de terreur, de magie, d'enfance. Je ne connaissais absolument pas son auteur. Je ne sais même pas si c'est complètement une photographie, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement travaillé. Mais voilà, j'ai adoré cette façon de toucher quelque chose immédiatement en moi. Et alors, comme je travaillais sur les prix, vous pouvez vous acheter le poster pour 7,95 €. Pour 79 €, vous avez une œuvre signée non numérotée. Et David Planeta vend quand même à 2 500 € pour des tirages de 40 exemplaires, si vous voulez donc l'œuvre originale.
Eh ben, en tout cas, je vous encourage, pour avoir regardé, à découvrir ces créations. Gildas, on n'a pas la couverture de l'ouvrage, malheureusement, mais tu vas nous parler de... Mais tu l'as, tu es familier. Martin
Bogren. C'est parti, donc oui, je vais vous parler d'un livre, forcément, vu que je vis un peu dans les livres, de Martin Bogren, qui est sorti le 10 novembre, si je ne dis pas de bêtises, Métropolia. Moi, je suis un grand fan de Bogren depuis très longtemps, puis j'ai eu la chance de l'interviewer, je crois, pour la première édition des Secrets de la photo argentique. Et c'est un livre que je trouve vraiment très beau. Déjà, l'univers de Bogren est, comme son nom l'indique, presque très graineux, avec des images très envoûtantes, prises essentiellement en argentique. Et on déambule comme ça avec lui, c'est une errance absolument fabuleuse dans une ville imaginée à travers des fragments, en fait, qui volent par-ci, par-là. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin de l'ouvrage, on trouve un entretien avec Bogren, ce qui permet du coup d'apprendre des choses sur sa pratique et sa démarche. Et moi, juste, je vais prendre mon petit pense-bête, ça me rappelle Italo Calvino et le très bon livre que j'avais adoré, Les Villes Invisibles. Mmh. Et dans ce livre, il y a cette phrase qui définit bien Bogren, je trouve. Les villes, comme les rêves, sont faites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leur règle absurde, leur perspective trompeuse, et toute chose en cache une autre. C'est un sacré jeu de cache-cache auquel nous invite Martin Bogren, pour 42 €.
Voilà. Et Italo Calvino, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Baron Perché aussi,
qui est
excellent livre. Merci pour la recommandation. Pierre.
Oui. Mais moi, je vais vous recommander une photographe allemande de l'ex-Allemagne de l'Est qui est décédée en novembre 2010. Elle avait 69 ans. Elle était de renommée internationale, sauf en France. Elle est pratiquement pas connue. Elle s'appelle Sibylle Bergmann. Et j'ai pu deux fois voir une rétrospective de plus de 200 tirages de son œuvre qui est magnifique et immense, vous vous rendez compte, 40 années. Et je vous recommande d'aller sur son site. Il n'y a pas que cette image que vous pouvez voir. Elle a fait aussi beaucoup de choses en couleur. Elle a fait du Polaroid. Elle a des portraits, hein, puisqu'on parlait de portraits là, qui sont assez étonnants, que je vous recommande de regarder, notamment en Polaroid. Voilà. Donc, allez cliquer sur le lien. Ses descendants ont fait un site et s'occupent vraiment de son fond photographique qui est fabuleux.
Très bien. Merci. On vous met tout ça, vous l'avez dans le chat, les références, vous pourrez les garder. Et Frédéric, ta recommandation?
Alors ma recommandation, moi, c'est une photographe française qui s'appelle Laure Samama. Elle est à la fois écrivaine et photographe. Elle a publié plusieurs ouvrages de photographie, mais aussi de poésie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le travail de Laure, c'est que chaque image contient une histoire. Voilà, ces images sont très simples, il y a très peu de retouches, et il y a une fragilité, une tension qu'on retrouve aussi dans ces textes. Et voilà, moi je suis conquis à chacune de ces images, elle a fait plusieurs livres, de photos où justement elle mêle photo et texte et où chaque moment est d'une délicatesse infinie, d'une fragilité et en même temps où il y a quelque chose de très fort, une tension permanente. Voilà, moi c'était mon coup de cœur de ce soir, Laure Samama.
Et ben voilà, vous avez des découvertes à n'en plus finir que vous pourrez retrouver sur le chat ou peut-être des livres pour les fêtes de fin d'année. Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Pierre de ta participation.
Merci à vous tous.
Merci Valérie, Gildas, Frédéric. J'ai passé grâce à vous et en votre compagnie un très agréable moment. Vous vous rendez compte, hein, on a fait une émission de 1h30. Bravo, on est prêt pour les primes. Merci Sylvain en coulisses qui attend que vous soyez 10 000 pour sortir des coulisses et qui a rendu cette émission possible. Merci, merci à toi. Et merci à vous tous sur le chat. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas, si tel est le cas, de vous abonner à la chaîne, de nous mettre un j'aime. Franchement, ça fait plaisir. Donc, on prend. On vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. Et bonne soirée. Ciao.